Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, bienvenue les petits amis, comment ça va? Bonjour le chat, est-ce que ça va bien? Bienvenue pour ce nouveau stream, toujours pas de questions au gouvernement, toujours pas de questions au gouvernement, quelle tristesse! Merci Mister Yanoche. Tristesse terrible, évidemment, désarroi de la communauté de Jean Massier qui attend avec impatience le retour des QAG à partir du 23 mars. Oh là là. Ça fait tellement longtemps que j'étais pas arrivé au début du stream que je découvre ce générique, il est chouette. Merci Lucie. Merci beaucoup. Oui, oui, il est très chouette. Il est très bien le générique. Je suis tellement déçu qu'on puisse pas te crier un grand ouais quand tu demandes si ça va. Bah si, tu peux l'écrire dans le chat. Enfin, ça fait bizarre, mais tu peux l'écrire. Bien sûr. C'est dommage de pas avoir de QAG en période de guerre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Augmentation des prix du pétrole, etc. Il y a deux, trois sujets là qui, en ce moment, mériteraient une petite séance de QAG, ouais. Hop là. Oh, cool, une FAQ politique. J'ai justement une question depuis hier soir. On va en parler. Merci, Agathe. Merci, Agathe. Ouais, moi, je suis en train de préparer l'émission Backseat de demain. Demain soir, émission Backseat extraordinaire. On reçoit... en exclusivité, Sophie Binet et Marie-Lise Léon, les deux patronnes des deux plus grandes centrales syndicales de France, qui vont venir discuter avec nous de la lutte contre l'extrême droite, puisqu'il se trouve que les syndicats sont en train de se mobiliser dans la lutte contre l'extrême droite, vu l'augmentation du vote RN. On a plein de questions à leur poser. Donc voilà, on a fait la conférence de rédac ce matin. On sera en plateau avec Mathieu Magnodex de Mediapart, qui sera avec nous pour cette interview. Et Mathieu Magnodex, vous le connaissez, c'est celui qui présente À l'air libre. Et le reste de l'émission va être dense. Hein. Le reste de l'émission va être dense parce que le Backseat va commencer avec un before qui va durer une heure. Before consacré à notre partenaire, les États généraux de la protection sociale. Je vous en ai déjà parlé. Et on va en savoir plus sur leur enquête, sur leur proposition dans la perspective de l'élection présidentielle. Voilà, puis après les sujets de l'actu, machin. On aura un invité actu aussi qui va venir nous présenter le collectif Démocratisons la politique, qui font un travail intéressant sur la parité sociale des listes aux campagnes municipales. Le profil sociologique de nos élus municipaux. Non, ça va être cool. En vrai, ça va être cool demain comme émission. Plein de sujets chouettes et plein de gens trop cool. Est-ce que c'est à cause des municipales s'il n'y a pas de QAG? Oui, exactement. L'Assemblée nationale est en période de suspension des travaux, le temps des élections municipales. Ça a l'air super ce projet sur la protection sociale. Je suis deg de ne pas avoir entendu parler qu'après la fin du recueil des données. J'aurais adoré participer. Ah, bah il y aura peut-être d'autres moyens de participer après. Bah, ils nous expliqueront ça demain. Ils nous expliqueront ça demain. Ils nous diront à quelle sauce on va être mangé, de quelle manière, etc. Ah, mais l'Assemblée nationale est vraiment en pause? Oui! Oui! Oui, l'Assemblée nationale est en pause. On appelle ça la suspension des travaux. Comme à Noël, comme pendant les vacances d'été, l'Assemblée nationale ne siège pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de séance de QAG, il n'y a pas de réunion de groupe, il n'y a pas de réunion de commission. Les commissions d'enquête suspendent leurs travaux. Voilà, ça reprendra après les municipales. Dès le lendemain d'ailleurs, le 23. Pas de perceuse dans l'Assemblée nationale aujourd'hui. Alors en général, l'Assemblée nationale profite des périodes de suspension pour faire des travaux. Ben oui. Donc là, ça se trouve, en ce moment, à l'Assemblée, il y a des travaux. Ils sont en train de repeindre des murs, ils sont en train de refaire des escaliers, des accès PMR, je sais pas. Est-ce que les députés peuvent continuer leurs travaux de commission? Il n'y a plus de commission. Il n'y a plus de réunion des commissions. Et les députés peuvent continuer leur travail. Hein. Les députés, ils peuvent bosser sur leurs dossiers, ils peuvent répondre aux emails, ils peuvent faire des déjeuners. Ils peuvent participer à des événements, ils peuvent faire tout ce que fait un député d'habitude, préparer leur travail, mais préparer la reprise, mais il n'y a pas de, y a pas de réunion. Le Sénat aussi. Ouais, le Sénat aussi, je crois, ouais. Est-ce que c'est une disposition normale le fait de s'arrêter pendant les municipales? Oui, absolument, dans toutes les élections. Toutes les élections, il y a des suspensions des travaux. Absolument. Ça dure en général un mois, 3 semaines, un mois de suspension des travaux pendant les périodes électorales. Enfin, juste avant les élections, quoi. Streamer sur Twitch. Non, il y a des députés qui streament. Il y a Denis Masseglia qui est en live là actuellement. J'ai vu tout à l'heure, il est en stream et il parle de la politique nucléaire. L'électricité nucléaire. La buvette est encore ouverte? J'espère. J'espère que la buvette de l'Assemblée est ouverte. En même temps, je pense qu'elle n'est pas ouverte, hein. Je pense que la buvette est fermée, vu que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de députés dans les couloirs, hein. Il y a quelques députés qui vont dans leur bureau pour taffer, machin, mais la plupart des députés, ils sont dans leur département en train de travailler, en train de faire leur campagne, soutenir les copains, etc. Je crois qu'il y a tellement plus de hype ces dernières années sur ce que font les députés que cette fois-ci, on s'en rend compte, là où on s'en foutait complètement avant. Je suis pas d'accord avec toi. Peut-être que toi, ça t'intéresse depuis quelques années, mais ça fait longtemps qu'on s'intéresse à ce que font les députés, ce qu'ils font pas, leurs travaux. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que la disposition de l'Assemblée nationale ingouvernable rend le travail parlementaire plus incertain, plus difficile. Donc effectivement, il y a plus d'attention sur ce qui se passe à l'Assemblée parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'Assemblée. Enfin, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un budget, pas de budget, motion de censure, pas motion de censure, division, machin, remaniement, tout ça. Oui, c'est vrai que ça rend l'actualité plus incertaine, ouais. Mon député, il est candidat au municipal. S'il gagne les municipales, est-ce qu'on refait des élections législatives ou est-ce que c'est son suppléant qui prend le poste? C'est son suppléant qui prend le poste. Si un député est élu maire, alors il doit quitter son poste de député et on ne refait pas d'élections législatives anticipées. C'est son suppléant qui reprend son siège de député. Tu conviendras que les travaux de l'Assemblée sont aujourd'hui beaucoup plus dans l'actu. Non? Ah non, non, non. Non, non, c'était déjà le cas avant. Hein. Non, non, c'était déjà le cas avant. Les discussions sur les projets de loi, l'établissement du budget, les débats budgétaires, tous ces travaux-là, ils étaient déjà dans l'actu. Merci, Titi Bo. Titi Bob, merci. Est-ce qu'il peut choisir de rester député et qu'il y en ait un autre qui prenne le poste de maire? Oui, il peut, mais à ce moment-là, il s'est pas mis tête de liste. Ça sert à rien de se mettre tête de liste si t'as pas l'intention de devenir maire. Si t'es tête de liste et que ta liste gagne les élections, c'est toi qui vas être élu maire. C'est normal, c'est logique. Enfin, il y a une cohérence politique. Mais il y a des députés qui se sont mis en deuxième, troisième de liste, quatrième, enfin voilà, qui sont mis plus bas dans la liste. Ce qui veut dire, j'ai l'intention d'être conseiller municipal et de rester député. Pas plus que conseiller municipal, pas adjoint, pas maire. Donc potentiellement, il y a une vague d'élections législatives partielles après les municipales. Non. Non, justement, je viens d'expliquer qu'il n'y aura pas de législative partielle en cas de cumul des mandats. Celui qui choisit de quitter son poste de député est remplacé par son suppléant. Il n'y a pas besoin de faire une élection. Le suppléant, il sert à suppléer son député dans trois cas de figure. Soit le député meurt, soit le député est nommé au gouvernement. Soit le député démissionne pour se mettre en conformité avec la loi sur le cumul des mandats. Voilà. Par contre, il peut y avoir une vague de nouveaux visages à l'Assemblée. Ouais, les suppléants, oui. Oui, effectivement, on va peut-être voir quelques dizaines de suppléants prendre le poste de député. On est d'accord que si un sénateur est élu maire, il peut avoir les deux casquettes. Non. Car j'ai vu que l'ancienne maire de Lavalette, Christiane Hummel, et l'ancien maire de Toulon, Hubert Falco, ont été maires et sénateurs durant la même période. Alors, la loi sur le cumul des mandats, elle date de 2014 et je crois qu'elle ne s'applique que depuis 2017. En fait, c'est assez récent. Avant ça, et pendant des décennies, il y avait des sénateurs maires, des députés maires, ça existait. Ça n'existe plus. Mais c'est assez récent. Donc c'est normal que vous entendiez parler d'hommes et de femmes qui ont été sénateurs maires. Oui, par le passé, c'était possible. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Et pour être maire et Premier ministre, ils pouvaient cumuler légalement. Absolument. Premier ministre, ce n'est pas un mandat. C'est une fonction. Un mandat, je vous rappelle que c'est confié par le peuple, via l'élection. Un Premier ministre n'est pas élu. Il est nommé Premier ministre. Donc, la loi sur le cumul des mandats ne s'applique pas aux ministres, notamment le Premier ministre. Ton avis sur le cumul des mandats, c'est une bonne chose ? Ah mais moi j'ai fait campagne pour l'abolition du cumul des mandats. Ça a été un des sujets sur lesquels je me suis engagé. Donc je suis contre le cumul des mandats. Je trouve ça très bien que cette loi ait été votée. Je pense qu'on devrait d'ailleurs élargir l'interdiction de cumul avec les fonctions ministérielles. C'est mon opinion. Et puis voilà. À Paris, est-ce qu'on peut être candidat à la mairie centrale et en même temps dans un arrondissement ? Une bonne question. Est-ce qu'on peut être candidat arrondissement et mairie centrale ? Ben, j'ai envie de répondre non, mais j'ai un gros doute en fait, j'en sais rien. Il y en a peut-être dans le chat qui savent. Il y en a qui savent ? Tu peux faire les deux ? Dati, elle est candidate dans le 7e et à la mairie centrale ? Knafo dans le 16e, Blandine Chauvel, tête de liste dans le 13e et à Paris. Ok, d'accord. Dati, elle est maire du 7e et elle s'était présentée contre Hidalgo. Oui, mais attention. Attention, il y a eu une réforme. Moi, je parle de la réforme. Avant la réforme qui date là il y a un an et demi, hein, c'est assez récent la réforme de Paris-Marseille et Lyon. Avant la réforme, les conseillers de la mairie centrale, c'était des conseillers d'arrondissement. C'était des sortes de super conseillers d'arrondissement qui siègent à la fois dans l'arrondissement et à la mairie centrale. Dit autrement, il n'était même pas possible d'être conseiller de la mairie centrale sans être conseiller d'arrondissement. C'était obligatoire. Aujourd'hui, on a décorrélé, avec la réforme, on a décorrélé les deux élections. Il y a donc deux élections en parallèle, celle de la mairie d'arrondissement et celle de la mairie centrale. Et voilà. Merci Aloha. Merci Nawal. Merci beaucoup. Comme pour les élus des métropoles. Oui, les élus des métropoles, ça a du sens puisque tu ne peux pas être conseiller métropolitain ou communautaire sans être conseiller municipal. Ce qui n'est pas le cas à Lyon, puisque la métropole de Lyon fait l'objet d'une élection à part. Mais pour les autres villes, c'est logique que ce soit les élus municipaux qui siègent, enfin certains élus municipaux qui siègent au conseil de la métropole. Quand on n'a pas vécu à Paris ou à Lyon, c'est un peu difficile de se figurer ce système de mairie d'arrondissement. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir plusieurs mairies spécifiquement? Paris, pour parler de Paris, c'est une ville de 2 millions d'habitants. 2 millions. C'est gigantesque. La ville de Paris, c'est à la fois un conseil municipal et un conseil départemental. La mairie de Paris, la ville de Paris, c'est 10 milliards d'euros de budget. C'est énorme. Les arrondissements, on en a absolument besoin pour faire de la proximité. On ne peut pas faire de la proximité à Paris uniquement depuis l'hôtel de ville de Paris. Moi, j'ai travaillé à la mairie du 20e arrondissement de Paris. La mairie du 20e, enfin le 20e arrondissement, c'est 200 000 habitants. C'est une très grande ville. 200 000 habitants, c'est énorme. Et on n'avait pas assez de moyens. Hein. À mon goût, on n'avait pas assez de moyens pour gérer tout ça. Alors évidemment, c'est la mairie de Paris qui gère tout Paris par définition, mais pour faire de la proximité, pour travailler en lien les machins, les trucs, enfin, juste, on était sous l'eau à un point, c'est délirant. Le 15e arrondissement de Paris, c'est 250 000 habitants. C'est énorme. C'est une gigantesque ville. Je crois que si le 15e arrondissement était une ville autonome, elle serait une des 15 plus grandes villes de France. Voilà, c'est pour ça qu'on a des mairies d'arrondissement. Dans ce cas, pourquoi Toulouse et Bordeaux n'ont pas d'arrondissement? C'est parce que le législateur a estimé qu'il n'y avait que Paris, Marseille et Lyon qui devaient avoir des arrondissements. C'est les trois plus grandes villes de France. C'est les trois seules qui sont organisées en arrondissement. C'est le fruit de l'histoire, sans doute. Ça s'est construit comme ça avec le temps. Mais dans certaines villes, notamment dans les grandes villes, c'est peut-être le cas chez vous d'ailleurs, merci Chani, peut-être le cas chez vous, il y a des mairies déconcentrées. Il n'y a pas d'arrondissement au sens de la loi, mais il y a quand même des antennes de la mairie à plusieurs endroits dans la ville. Merci Anonyme. Ne serait-ce que pour les démarches administratives. Des annexes, ouais, c'est ça, des sortes d'annexes, on appelle ça mairie de proximité, on appelle ça, voilà, il y a plein de mots différents, mais voilà, il y a des grandes villes dans lesquelles il y a des mairies de proximité qui sont des points d'étape pour les rendez-vous administratifs à différents endroits. Si une ville voulait se diviser par arrondissement aujourd'hui, qui aurait la compétence pour décider ça? La loi. Uniquement la loi. À ma connaissance, personne ne demande à être divisé en arrondissements. J'ai jamais entendu le maire de Bordeaux, le maire de Toulouse, le maire de Nantes, etc., réclamer une évolution législative pour créer des arrondissements. J'ai jamais entendu ça. J'ai cru comprendre que c'était possible, mais je souhaiterais un éclairage. À Paris, Lyon et Marseille, est-ce qu'on pourrait avoir un cas de cohabitation comme Rachida Dati, maire de Paris, avec un conseil de Paris à majorité à gauche? Alors, non. Le conseil de Paris, c'est le Parlement de Paris, et c'est lui qui élit le maire de Paris. Donc, par définition, le maire de Paris, il est de la même couleur politique que la majorité du conseil municipal. Conseil de Paris. Donc, tu ne peux pas avoir de cohabitation. Un maire ne peut pas être minoritaire dans son conseil d'arrondissement. C'est pas le bordel d'avoir dans une même ville des mini-gouvernements tenus par d'autres partis que celui à la tête de la ville? Non, puisque de toute façon, les mairies d'arrondissement, enfin comment vous le dire? Paris n'est pas une fédération d'arrondissement. Voilà. Les mairies d'arrondissement ne sont pas des mairies comme les autres. Ce sont pas des, voilà, ce sont des petites mairies qui n'ont pas de pouvoir par rapport à la mairie centrale. Il n'y a qu'une mairie à Paris, c'est la ville de Paris. Mais dans l'articulation de cette mairie, il y a des mairies d'arrondissement qui sont concertées sur tous les sujets qui les concernent, qui peuvent voter des délibérations, qui ont une petite marge d'autonomie, y compris financière. Les mairies d'arrondissement peuvent faire des trucs, machin et tout. Mais une mairie d'arrondissement ne peut pas s'opposer à la mairie centrale. Elle peut gueuler, elle peut voter contre, elle peut faire des recours en justice, elle peut casser les couilles, mais elle ne peut pas empêcher. Par exemple, à chaque fois que la gauche a fait des trucs à Paris, à chaque fois que la gauche a fait des trucs à Paris, les mairies d'arrondissement de droite, 7e, 15e, 16e, etc., machin, ils ont tout fait pour s'opposer. Mais tout, hein. Ils ont fait des recours en justice, ils ont voté contre, ils ont fait des contre-propositions, ils se sont épanchés dans les colonnes du Parisien pour critiquer, machin. Voilà, ils ont fait leur boulot d'opposant. Mais ils n'ont pas pu s'opposer au projet. C'est comme ça qu'il y a eu des Vélib. Il y a des stations Vélib dans les arrondissements de droite. Même si la droite a tout fait pour qu'il n'y en ait jamais. Ben, il y en a quand même. Pareil pour les pistes cyclables, pareil pour le logement social. Coucou Anne Hidalgo. Voilà, elle le saura pour Rachida Dati qui s'est opposée de toutes ses forces à avoir des logements sociaux. Rachida Dati, elle a tout fait pour empêcher la création de logements sociaux dans le 7e arrondissement. Elle n'a pas réussi. C'est terrible cette gauche, hein. Cette gauche qui nous impose les logements sociaux. Tu t'occupais de quoi à la mairie du 20e? Moi, je m'occupais des affaires scolaires, périscolaires, de l'égalité femmes-hommes. Mais du coup, si un arrondissement ne peut pas s'opposer à la décision de la ville, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir véritable? Une mairie d'arrondissement, déjà, elle est consultée sur toutes les délibérations de la mairie centrale qui la concerne. Donc le conseil d'arrondissement délibère, il échange, il vote sur toutes les délibérations qui le concernent. Il peut aussi voter des vœux pour faire pression sur la mairie centrale pour obtenir des trucs. La mairie d'arrondissement, elle a aussi un budget qui lui est propre, qu'on appelle les états spéciaux d'arrondissement. Je crois que ça a été réformé depuis, ça s'appelle différemment, mais bref, les mairies d'arrondissement ont un petit budget sur lequel elles peuvent faire des trucs d'elles-mêmes, faire des animations, faire de la proximité, faire plein de trucs. Et voilà. Et puis les mairies d'arrondissement, elles peuvent remonter à la mairie centrale leurs problématiques. Moi, quand j'étais à la mairie, quand j'étais à la mairie de Paris, j'ai fait 1 milliard de réunions où il y avait 20 personnes autour de la table. C'était les 20 arrondissements. C'est comme ça, c'est tous les jours. Les réunions avec les arrondissements, sur tous les sujets. Ça peut être des politiques qui se réunissent, ça peut être des fonctionnaires, ça peut être des conseillers techniques comme moi. Des équipements urbains où ça passe que par la mairie centrale. Si, des équipements urbains, la mairie d'arrondissement, elle a son mot à dire, bien sûr. C'est elle qui connaît le mieux le territoire, donc c'est elle qui peut dire, au croisement de la rue machin et de la rue truc, on aurait bien besoin d'avoir un banc public, machin et tout, donc tu fais remonter. Alors soit tu le prends sur ton budget d'arrondissement pour l'installer, soit tu fais remonter la demande, soit tu fais pression pour obtenir plus de trucs et tout. Mmh. En gros, ils gèrent les affaires courantes à leur échelle. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait des soirées avec des petits fours et des repas de traiteurs payés par le contribuable? Ouais, des fontaines de champagne. Oh là là. Comment les maires d'arrondissement sont-ils désignés? Ils sont élus par leur conseil d'arrondissement. Ils sont élus par leur conseil d'arrondissement. Comment est calculé le pourcentage de logements sociaux? On peut lire que c'est 25% à Paris. Bah, on fait une division. Nombre total de logements divisé par le nombre de logements sociaux. Ça nous donne un pourcentage de logements sociaux. Enfin, ouais, non, je sais pas, c'est. Voilà, on calcule comme ça. C'est l'inverse. C'est l'inverse? C'est le nombre de logements sociaux divisé par le nombre total de logements. Ouais, ça doit être ça. Fois 100. Et tu multiplies par 100. Ouais, c'est pareil. C'est donc ça les mathématiques. Ouais, mais les mathématiques, c'est pas une science exacte de toute façon. Donc, voilà. Est-ce qu'il existe des mécanismes pour éviter que les mairies d'arrondissement du bord opposé soient lésées par rapport à celles du bord de la mairie centrale? Non. Non. Les arrondissements populaires de Paris ont été négligés par la droite parisienne pendant toutes les années où elle a été au pouvoir. Voilà. Y a des chances cette année pour que les gens qui se fassent plus plaisir sur les mairies d'arrondissement, vu qu'il n'y a pas de pression de choisir le maire de la ville, donc ça profiterait à Reconquête et LFI. Dans les arrondissements. Ah, tu penses que les gens vont avoir deux bulletins de vote différents, un pour l'arrondissement, un pour la mairie centrale? Je suis pas sûr de ça. Ce sera à vérifier, ce sera intéressant. Tu voudrais dire qu'un politique fait du clientélisme, favorise les arrondissements populaires quand la mairie est à gauche et favorise les arrondissements riches quand la mairie est à droite? Quel scandale! Non mais croyez pas que, enfin je veux dire, à l'intérieur même de la majorité, il y a des engueulades. Évidemment, les arrondissements défendent leur bout de gras. Moi, quand j'étais dans le 20e, je me battais souvent contre le 19e. Hein. Je disais que, comment ça? Pourquoi eux, ils ont des trucs et pas nous? Pourquoi ils ont des rallonges de budget? Pourquoi ils ont de l'investissement? Et nous alors? Comment ça se fait? Sur la base de quoi? Voilà, bah c'était mon boulot quoi. Est-ce que si un arrondissement devient trop gros en nombre d'habitants, on le divise par deux? Non, par contre, à Paris, il y a un truc qui a été fait dans le cadre de la réforme là, justement Paris-Marseille-Lyon. Les quatre arrondissements centraux de Paris ont été fusionnés en un seul. Avant, il y avait les arrondissements 1, 2, 3 et 4, qui étaient grosso modo autour du Louvre, de Châtelet-Les Halles et de l'Hôtel de Ville de Paris. Et ces quatre arrondissements, ils étaient tout petits. Ils étaient tout petits en nombre d'habitants. Il n'y a pas grand monde qui habite là. Et donc, on a décidé de fusionner les quatre arrondissements centraux. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un seul arrondissement qui s'appelle Paris-Centre. Et qui est né de la fusion des quatre anciens arrondissements. Il n'y a plus que 17 arrondissements. Aujourd'hui, il y a 17 arrondissements à Paris, ouais. Il y a 17 arrondissements à Paris. Paris Centre, Paris 5, Paris 6, Paris 7, Paris 8, etc. Et que deviennent les anciennes mairies? Alors, l'ancienne mairie du 4e arrondissement de Paris, c'est devenu l'Académie du climat. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas s'il y a des Parisiens dans dans la salle, mais l'hôtel de ville, qui avant était une mairie, est devenu un lieu dédié à la lutte contre le changement climatique, avec des animations, avec des associations, des collectifs, avec plein de trucs. Moi, j'ai fait une émission là-bas. C'est devenu un lieu de vie. Un lieu culturel, un lieu éducatif, machin et tout. Les autres, je t'avoue que j'en sais rien. Les autres, c'est des antennes de la mairie de Paris. Je sais pas ce qu'ils y font. Je sais pas si c'est des lieux d'accueil. Ils ont peut-être gardé les services administratifs. Ils ont peut-être gardé les services d'accueil pour les démarches. Je sais pas. Du coup, on refait pas les numéros d'arrondissement. Ah non, 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 on refait pas les numéros d'arrondissement. Déjà que ça a mis un siècle à rentrer dans la tête de tout le monde, on va pas changer les numéros d'arrondissement. Oh. Oh, déjà, c'est compliqué. Si je dis pas de bêtises, il y a une des mairies qui est devenue une crèche depuis. Alors c'est possible, ouais c'est possible qu'une mairie ait été transformée en crèche, d'autant qu'il y a des gros besoins d'accueil de la petite enfance dans ces quartiers-là. Je me souviens aussi que quand Bertrand Delanoë a été élu maire de Paris en 2001, il a transformé les anciens appartements de Jean Tiberi en crèche. Pour dire, ouais, je rendrai Paris aux Parisiens. Par exemple, les appartements luxueux de Jean Tiberi. Allez hop, ça va servir aux Parisiens. Voilà. Je sais pas si ça a duré ce truc-là. Je sais pas si ça a duré, j'en sais rien. Les arrondissements 1, 2, 3, 4 existent encore pour d'autres usages, genre les adresses postales. Ah oui, ah bah oui, les adresses postales, ça, tu peux pas les changer. Non, non, les arrondissements n'ont pas disparu pour la poste. Il y a toujours les arrondissements 1, 2, 3, 4. Ça, c'est vrai. Je suppose que administrativement, il y a toujours les arrondissements 1, 2, 3, 4. Pour des raisons de praticité et de continuité du service public. Toi qui fais de la vulgarisation depuis longtemps sur ces sujets, est-ce que tu constates un plus grand intérêt cette année pour des gens pour les municipales qui cherchent à comprendre, posent des questions, ou est-ce que c'est similaire aux précédentes éditions? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, vous avez toujours été curieux. Je me souviens des municipales de 2020, on avait des discussions similaires, il y avait des questions similaires. Non, je ne sais pas s'il y a. Je sais pas, je saurais pas te dire s'il y a un intérêt particulier pour ces élections municipales. Ce que je note néanmoins, c'est qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte, et que je vous rappelle qu'en janvier-février dernier, janvier surtout, vous et moi, on se disait, ouais, les municipales, tout le monde s'en branle. Personne n'en parle. Toute l'attention médiatique, politique et citoyenne est tournée vers le budget à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous le marathon budgétaire qu'on s'est tapé cette année, 4 mois d'engueulade pour savoir si à la fin on aurait un budget ou pas, psychodrame à l'Assemblée nationale, motion de censure, etc. Donc vraiment, c'était la chose importante, quoi. Et je me souviens qu'à l'époque, on se faisait la réflexion de, bah dis donc, putain, les municipales. On avait même sur le plateau de Baxit, on avait parlé de municipales à bas bruit. Je me souviens qu'on parlait de ça. Bon, Là, on est à 4 jours du premier tour. Je constate qu'on parle beaucoup des municipales. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est traité, sur lequel les gens échangent et discutent. Les médias font des tonnes d'articles. Moi, je regarde les sections politiques des quotidiens nationaux. C'est que municipal. Hein. C'est full municipal. C'est des articles hyper intéressants sur... Là, j'en ai lu un ce matin sur Éric Ciotti dans le sud, dans les Alpes-Maritimes, qui fout un bordel monstrueux chez les Républicains, etc. Enfin, bref, t'as des analyses dans tous les sens. Tu penses que c'est un déclic depuis la dissolution sur l'importance des élections? Non. Non, 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 non. Mais non, je te dis, je veux dire, on a pas parlé des municipales avant le mois de février. Enfin, je dis on n'a pas parlé, évidemment, je caricature, vous avez bien compris. Mais les municipales ne sont devenues un sujet d'intérêt national que depuis assez peu de temps. Ça fait 3 semaines, 1 mois, je trouve, qu'on en parle vraiment des municipales. Tous ceux qui pensaient gagner les doigts dans le nez dans des élections se sont pris des murs. Jospin, Balladur. Oui. Il y a des contre-exemples aussi. Il y a Nicolas Sarkozy, il y a Jacques Chirac. Mais oui. Une élection, c'est jamais gagné d'avance. Tu penses que c'est tout droit pour Dati à la mairie ou rien n'est sûr? Rien n'est sûr. Rien n'est sûr, ça va dépendre de plein de facteurs que vous et moi allons décortiquer ensemble dimanche, lors de la soirée électorale. Le taux de participation, la qualification au second tour de Pierre-Yves Bournazel et de Sofia Chikirou, les alliances ou pas les alliances, quelles alliances, quel maintien au second tour. Enfin voilà, en fait, il y a des facteurs assez important. Sarah Knafo, oui, t'as raison, Sarah Knafo. Sarah Knafo aussi, ça va jouer pour Rachida Dati. Est-ce qu'elle se qualifie au second tour? Est-ce qu'elle fusionne? Est-ce qu'elle fait une alliance? Pas d'alliance. Rachida Dati a dit non, il n'y aura pas d'alliance. Mais bon, je vous rappelle que les gens qui disent pas d'alliance avant le premier tour, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Bon. Voilà. Donc en fait, j'en sais rien pour Rachida Dati. C'est plutôt Grégoire le favori à Paris. Oui, alors au premier tour, Emmanuel Grégoire semble se diriger vers 30-35% des voix. Mais le problème, c'est qu'il a besoin de réserve de voix pour arriver au second tour. Enfin, pour arriver au second tour, pardon, pour gagner le second tour. Et Grégoire, c'est pas sûr qu'il ait autant de réserve de voix que Rachida Dati. Rachida Dati, si elle récolte le vote. Des électeurs de Bournazel et des électeurs de Knafo, un moyen qu'elle passe la barre des 50%. Est-ce que tu penses que les électeurs de PLM vont faire beaucoup de panachage de leur vote pour nuancer leur vote? Il n'y a pas de panachage. Ça n'existe plus le panachage. Déjà, ça n'existait que dans les mairies de moins de 1000 habitants. Et même maintenant, ça n'existe plus non plus dans les mairies de moins de 1000 habitants. Toi qui es Titi parisien, tu imagines Dati maire de Paris? Bah oui. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut être lucide aussi, le Rachida Dati pourrait être maire de Paris. Après tout, on a déjà eu Jean Tiberi, on a déjà eu Jacques Chirac. C'est pas, je veux dire, Paris n'appartient pas à la gauche. C'est pas parce que depuis 25 ans, c'est la gauche qui gagne les élections municipales à Paris qu'ils vont continuer à les gagner éternellement. C'est plus compliqué que ça. Donc oui, carrément, Rachida Dati peut très bien devenir maire de Paris. Alors ça va être bizarre parce qu'elle sera maire de Paris et elle aura immédiatement rendez-vous dans le bureau du juge d'instruction pour son procès. C'est un peu spécial, mais... D'ailleurs, c'est Bertrand Delanoë qui est sorti de sa réserve pour soutenir Emmanuel Grégoire, qui a dit comme un vieux sage, vous savez, moi j'ai connu l'époque où la politique parisienne se faisait devant les tribunaux et j'ai pas envie d'y retourner. Effectivement, les années 90, c'était beaucoup dans le canard enchaîné qu'on entendait parler de la mairie de Paris et devant les tribunaux. Ouais, c'était une époque, c'était une époque. Il y avait un parfum. Il y avait, c'est, ouais, bon, c'est spécial. Paris est une ville qui est ancrée à gauche depuis 20 ans et sa niraquance se renforçant avec les années. Non. Non. Paris n'est pas une ville de gauche. Paris, c'est deux putains de millions d'habitants. C'est très compliqué, Paris. C'est très grand. Il y a des réalités sociologiques radicalement différentes. On a la Villa Montmorency dans le 16e arrondissement, le top du chic de la grande bourgeoisie, et on a les quartiers populaires du 20e et du 19e arrondissement, collés au périphérique. Je veux dire, c'est les deux sont à Paris. Les deux sont à Paris. Est-ce que si Dati est maire et qu'elle est condamnée, elle devra démissionner? Si Rachida Dati est condamnée à une peine d'inéligibilité définitive, alors oui, elle devra quitter son éventuel poste de maire de Paris. Mais ça peut prendre du temps. Tu recommandes quel arrondissement pour habiter à Paris en tant qu'étudiant? C'est pas une question de goût, je suis désolé. C'est une question de pognon. C'est vraiment, ça dépend combien t'as d'argent. C'est toi qui vois. Regarde les annonces immobilières à Paris. Et tu verras où tu pourras habiter. C'est comme ça que ça va se passer. Et je te souhaite la bienvenue dans le 20e arrondissement. Viens t'installer dans le 20e. C'est à peu près le seul endroit où tu vas pouvoir t'installer. Je comprends pas, une peine d'inéligibilité, c'est censé t'interdire de te présenter à une candidature, mais ça peut aussi casser un mandat en cours. Pourquoi Le Pen est encore députée? Parce que Marine Le Pen n'est pas maire. Marine Le Pen est députée. Les mandats de parlementaires sont plus protégés que les mandats exécutifs locaux. Un maire qui est condamné définitivement à une peine d'inéligibilité doit quitter son poste. Un député, c'est plus compliqué. Marine Le Pen a dû démissionner de son poste de conseillère départementale par ailleurs. Absolument, Marine Le Pen, lorsqu'elle a été condamnée à une peine d'inéligibilité, a dû démissionner de son poste de conseillère départementale. Attends, j'ai un doute. Je suis saisi d'un doute. Ça me saisit. Est-ce que la peine doit être définitive? Parce que depuis tout à l'heure, je dis que c'est une peine définitive qui emporte le mandat en cours. Mais Marine Le Pen, ce n'était pas une condamnation définitive, vu qu'elle est en appel. Ah, l'application provisoire. L'exécution provisoire. Ouais. Ouais, vous avez raison, c'est la bonne réponse. C'est l'exécution provisoire de la peine qui s'applique au mandat en cours. Est-ce qu'une peine d'inéligibilité empêche de se présenter ou d'être élu? Bah les deux du coup, puisqu'elle t'empêche de te présenter, donc d'être élu. Une personne qui est frappée d'une peine d'inéligibilité ne peut pas déposer sa candidature à la préfecture. la préfecture rejettera sa candidature en application de la peine. En disant, bah, non. Voilà. Donc il n'y aura pas de bulletin de vote à ton nom, c'est pas possible, tu ne peux pas être sur une liste, c'est pas possible. Pourquoi elle a pu garder son mandat de députée et pas de conseillère? Parce que député, c'est pas un mandat local. Député, c'est député de la nation. Tu représentes le peuple dans son ensemble. Tu le représentes pas à toi-même, tu le représentes collectivement avec tes collègues. La loi est faite de telle manière qu'on protège les mandats des parlementaires en disant que c'est trop grave de perdre son mandat de parlementaire et que donc il convient d'attendre que la peine soit définitive. Je crois que c'est ça. De mémoire, c'est peine définitive plus saisine du bureau de l'Assemblée par le garde des Sceaux. Non, saisine du Conseil constitutionnel par le garde des Sceaux ou par le bureau de l'Assemblée pour constater la fin du mandat. En gros, c'est ça la procédure. C'est-à-dire que le bureau de l'Assemblée doit envoyer un courrier au Conseil constitutionnel pour lui demander de constater que le député machin ne peut plus être député puisqu'il a été condamné définitivement machin machin. La réalité des faits, c'est que quand ça arrive, le député en question démissionne de lui-même avant. Voilà. Les députés ne vont pas jusqu'au bout de l'humiliation pour le plaisir. Ils assument leur connerie. Voilà, j'ai été condamné, je mets fin à mes fonctions, j'arrête, j'envoie un courrier, c'est terminé. C'est bon, c'est pas la peine de m'humilier en allant chercher le Conseil constitutionnel. Voilà. Il n'y a pas des très petites communes où tu peux voter pour quelqu'un qui ne s'est pas présenté? Non, ça n'existe plus, ça. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il y a des listes de 7 conseillers municipaux. Avant, il y avait ce qu'on appelait le panachage. Et le panachage, c'était la possibilité de rayer des noms de la liste, voire d'en ajouter d'autres. Voilà, ça existait. Et c'est terminé maintenant, c'est fini. Ça n'existe plus. Il y a eu une réforme là, qui est passée il y a quelques mois ou quelques années. Maintenant, il n'y a plus de panachage possible. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Tu as une liste, tu la mets dans l'enveloppe, tu votes. Merci, au revoir. C'était quoi la raison? C'est quoi la raison? La raison pour laquelle on a arrêté le panachage? Parce que c'était une pratique de connard? Je veux dire, je sais pas, mettez-vous dans un village. Je veux dire, les gens qui rayaient les noms. Ah, Madame Berthier, je l'aime pas, Madame Berthier. Alors du coup, je vais retirer son nom à Madame Berthier. Enfin, t'imagines juste... Je sais pas, présente-toi à la place, en fait, au lieu de dégager des gens comme ça, les espèces de petites inimitiés locales, les guéguerres de village et tout, mais quel enfer! Non, c'est juste tu votes ou tu votes pas, en fait. Tu complètes pas toi-même. Ça m'est arrivé de me faire rayer dans mon village d'origine. Ça doit être non, mais ça doit être horrible. T'imagines? Non, mais attends. Déjà que t'es bien sympa. T'es bien sympa d'être candidat au municipal. Hein? Parce que personne veut y aller au conseil municipal. Toi, tu acceptes de te coltiner le truc. Et en plus, il y a des gens du village qui raillent ton nom. Allez vous faire foutre. Libération a sorti un article sur Dominique de Villepin et du parti du gaullisme de gauche. Est-ce que c'est un vrai truc, le gaullisme de gauche ? Oui, bien sûr. Alors, c'est historique, hein, le gaullisme de gauche dans les années 50, 60. C'était André Malraux, c'était un certain nombre de responsables avec la fibre sociale du gaullisme, un État très interventionniste et solidariste. Oui, évidemment. Enfin, c'est un truc historique. Hein. Quelle utilité d'aller voter s'il y a une seule liste? Ça sert à légitimer le conseil municipal. Dans mon village, il y a deux listes. Les deux candidats ont le même nom de famille. Quand on lit leur tract, aucun moyen de départager l'un et l'autre. C'est des promesses très génériques. Si ça se trouve, c'est deux membres d'une même famille, mais qui se détestent. Ah, c'est possible. Il y a une commune où un père et son fils se présentent l'un contre l'autre. Oui, j'ai vu. J'ai vu cette histoire, ouais. Le père et le fils peuvent pas se piffrer, ils se détestent et il y a deux listes concurrentes. Putain, les ambiances de village. Oh, les tensions locales. Conseiller municipal, c'est rémunéré. Oui, tu as une indemnité d'élu qui est calculée selon la taille de la ville en population. Et je ne sais plus exactement quelle est la règle de calcul et comment ça fonctionne. On a regardé hier, c'est un pourcentage du taux d'indice de machin. À ton avis, Dati, elle va chercher au second tour les voix de Bournazel ou celles de Cnafo? Ben, ça va dépendre de qui s'est qualifié au second tour. Si Sarah Cnafo se qualifie au second tour, mais pas Bournazel, Dati va devoir essayer de trouver un accord avec Cnafo. Si à l'inverse, Bournazel se qualifie, mais pas Cnafo, Rachida Dati va bénéficier du report de voix de Cnafo, mais peut-être pas de celui de Bournazel, donc il va falloir négocier avec lui. Pourquoi dans les grandes villes on peut voter une heure de plus? Il y a trop de monde? Oui, il y a trop de monde. Ça dépend des élections, ça dépend du taux de participation, mais les bureaux de vote dans les grandes villes, il y a souvent la queue, hein. Alors, c'est pas non plus comme aux États-Unis où tu dois attendre pendant 4 heures avant de pouvoir voter, mais dans certains bureaux de vote. Mais ouais, non, 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 il y a trop de monde. Bournazel ne fera aucun accord avec Rachida Dati. On verra. On verra selon l'intérêt de Bournazel pour le sujet. On verra selon les consignes nationales de Horizon. On verra. Voilà. Faut jamais dire jamais avant le premier tour. C'est le soir du premier tour, à partir de 20h, en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier, qu'on prend position. C'est quand le second tour? C'est le 22 mars. C'est quoi la date limite des fusions? C'est le mardi qui suit le premier tour. Ça va très très vite, hein. Les partis n'ont pas énormément de temps pour s'asseoir, discuter, hein. Ça se fait en une journée, hein. Le PS adore dire jamais LFI. Oui, et LFI adore dire jamais PS. Bon, les deux sont en train de s'asseoir en se disant, bon, va peut-être falloir qu'on discute quand même, parce que ce serait trop con que la gauche essuie une giga défaite à ces élections municipales. Donc il y aura très probablement des discussions entre LFI et le PS dans beaucoup de villes. Est-ce qu'il prévoit déjà des plans en fonction des possibilités de résultats, voire des prévisions? Ouais. Ouais. À l'heure où je vous parle, il y a déjà des prises de contact en off qui sont faites entre les équipes des candidats. Ça discute. C'est des espèces de pré-négociations. Et on se rappelle dans la nuit de dimanche à lundi pour continuer la discussion en fonction des résultats. On reprend les discussions, on reprend le dialogue, on voit qu'est-ce qu'on peut faire, imaginer, comment toi tu vois les choses, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ah non, là t'en demandes un peu trop, c'est beaucoup. Nous, on voit plutôt les choses comme ça, etc. Voilà. Pourquoi y a-t-il besoin d'accord avec les partis perdants? Ça veut dire quoi perdant? Ça veut dire quoi perdant au premier tour? Juste, t'es qualifié au second tour, hein. C'est bon, t'as gagné. T'as gagné ta voix au chapitre dans les négociations de second tour. Les électeurs ne peuvent-ils pas décider de leur report de vote eux-mêmes? Si. Mais les candidats peuvent décider de se maintenir ou de se retirer, ou de fusionner. Ça change tout, hein. Quid des communes mortes pour la France? Certains posent la question. Ah, les communes mortes pour la France à Verdun, le maire, il est désigné par le préfet. C'est une nomination. De toute façon, c'est un rôle purement honorifique, par définition, mais voilà. Quand est-ce qu'on reçoit les professions de foi dans les boîtes aux lettres? Je sais pas, j'ai toujours rien reçu, moi. Moi, j'ai pas les professions de foi. Est-ce que vous avez vu? Attendez, il y a un truc rigolo. Attendez, il y a un truc rigolo. Je l'ai partagé sur Blue Sky. Attends, je vais retrouver. Il y a une candidate. Il y a une candidate qui s'est plantée. Il y a une candidate, elle a fait une boulette. C'est une candidate de Reconquête. Regardez son tract. Elle a oublié de remplacer le nom de la ville. C'est quand même dommage. Elle a tout bien fait. Elle a tout bien fait. Elle a envoyé à l'imprimeur dans la bonne date. La typologie, c'est la bonne, etc. Non, mais tout est bon. Il y a juste un petit oubli. En vrai, c'est pas mal, hein. Je trouve ça très drôle. Moi, je trouve ça très drôle. En plus, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Parce que tous les partis font ça, hein. Tous les partis envoient des templates, etc. Ils envoient ça à tous leurs candidats sur la mailing list. La mailing list des candidats, hop là, t'envoies le template, tu leur dis voilà pour l'imprimeur, attention les dates, ça doit être ça, ça, ça. Et t'envoies le document, et voilà. Bravo Sabine Clément. Le contenu du programme, c'est lorem ipsum, c'est ça. Exactement. En vrai, c'est rigolo. En vrai, c'est rigolo. Bah, après, c'est les élections municipales, c'est un petit peu amateur, c'est voilà. En plus, à Versailles, où Reconquête pourrait avoir des ambitions. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Elle a pensé à sa photo, c'est vrai. Moi, je suis vraiment dans un dilemme. J'ai un maire PS dont je suis satisfait, mais il y a une candidature LFI qui m'intéresse plus pour les sénatoriales. Je deviens fou depuis une semaine à cause de ça. Bon, t'inquiète pas, parce que de toute façon, ils vont bien finir par fusionner. Entre les deux tours. Donc à la fin, tu voteras pour les deux. Pour les sénatoriales, après, on verra. Hein. D'ailleurs, le Reconquête a indiqué que sa candidate, prénom ou non, a porté plainte contre l'imprimeur. Oh mon Dieu. Mieux vaut voter pour le PS ou LFI quand on est sûr que c'est le PS gagnant. Vous faites ce que vous voulez, hein. Ça dépend de vous. Je sais pas où vous habitez. Je sais pas. Voilà, c'est vous qui voyez. Là, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a les logos du ou des partis sur le bulletin? Oui, je crois. Oui. C'est un bulletin, c'est un scrutin de liste, donc tu auras les listes. Ça dépend où vous habitez, hein. Je sais pas, voilà. Mais je crois qu'il y a des listes, en tout cas dans les grandes villes, c'est des listes avec de la couleur, etc. Genre la liste des écolos, elle est toute verte. Enfin, tu vois, c'est. C'est pas que ça dépend de nous, faut voter pour le programme qui nous convient le plus en soi. Vous faites ce que vous voulez. C'est pour ça que ça dépend de vous. Vous votez pour ce que vous voulez. Vous votez pour l'incarnation, votez pour le programme, ça dépend ce qui compte le plus pour vous. Et puis après, vous pouvez avoir des votes tactiques, comme on dit. Vote utile, vote stratégique, etc. Mais ça, c'est une tambouille que chacun doit faire de son côté pour évaluer le truc, quoi. Delogu peut-il gagner à Marseille? Gagner, probablement pas. À lui tout seul, en tout cas. Comment sont financées les campagnes électorales, surtout pour les petites villes? C'est des dons. C'est des dons. C'est des dons individuels, peut-être une participation du parti politique, notamment dans les grandes villes, mais pour les petites villes, c'est des dons, hein. C'est quoi la couleur du modem? La couleur du modem, c'est le orange. Ça a toujours été le orange, la couleur du modem, depuis le début. Bah, ils ont repris la couleur de l'UDF. Est-ce qu'il existe encore le modem? Le modem existe encore, il va bien, il t'embrasse. Il est concentré sur l'élection municipale de Pau. Mais du reste, Marc Fesneau et les autres, ils font toujours partie de la coalition ensemble. T'as encore ta carte Giscard Collector? Alors, c'était pas le modem, c'était l'UDI. Et non, j'ai plus ma carte, non, je l'ai paumée. Mais ça fait des années, hein. C'est con, elle était shiny. Pour les plus jeunes, le modem, c'était un clin d'œil à la modernité Internet. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les plus jeunes, ils ne savent pas ce que c'est qu'un modem. On dit plus modem, on dit box. T'as une box SFR, t'as une box Orange, t'as une... Mais tu dis plus le modem. Plus personne dit ça. Je suis sûr que les plus jeunes, ils n'ont jamais entendu le mot. Ils vont dire, mais modem, c'est un parti politique. Ah non, avant, c'était autre chose. C'était vraiment pour ça? Non, c'était pas pour ça. Non, 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 non. Modem, ça veut dire mouvement démocrate. Voilà, c'est le mouvement démocrate. C'est le nom du parti. Et plutôt que de s'appeler le MD, ils ont décidé de s'appeler le Modem. Parce qu'en plus, à l'époque de la création du Modem, eh ben, le Modem, c'était Internet, c'était la nouveauté, l'innovation, la jeunesse et l'énergie. Voilà, c'est tout. C'était un jeu de mots. Mais c'est pas pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. 56K, c'est le nombre d'électeurs. Le bâtard. Ah, le bâtard. Les fournisseurs d'accès qui offrent des combos modem routeur, ces termes ont largement disparu. Mais oui, ça a disparu. Enfin, peut-être encore utilisé par les techniciens, mais. Mais bref, effectivement, je vais reprendre mon rôle de dinosaure, mais pour les plus jeunes d'entre vous, effectivement, il fut un temps où avoir un modem à la maison, c'était la technologie, hein. Tout le monde n'avait pas un modem. Il fallait s'acheter un modem. Voilà, et t'étais super content de l'avoir, le modem, hein. Voilà. C'est comme avoir le câble, avoir le câble. T'as le câble? Ma maison, elle est câblée. Ouais, ma maison, elle est câblée. Oh, trop classe, ta maison, elle est câblée. Ouais. Voilà. C'est le summum de... Waouh, incroyable. T'as le satellite. Ah, le satellite, c'était le summum. T'as TPS? T'as TPS? Oh, t'as TPS, incroyable. Ouais, je peux regarder des chaînes du monde entier. Mais tu regardes des chaînes du monde entier? Non. Je regarde TF1. Team CanalSat. Ah oui, CanalSat, évidemment. C'était en 97, 96, 97, il fallait attendre 22 heures pour se connecter à 56K pour payer avec une réduction spéciale. Ouais, merci Aldan. Ouais, je me souviens. Et je me souviens aussi que dans ces années-là, on avait des CD-ROM dans les magazines qui offraient des heures de connexion gratuites. C'était des CD-ROM promotionnels pour vanter les abonnements Internet, AOL, Club Internet, etc. Donc tu avais des CD-ROM AOL, tu les mettais dans l'ordinateur et tu avais 2 heures d'Internet. 2 heures d'Internet. C'était trop bien. Et moi, évidemment, je faisais partie de ceux qui collectionnaient les CD. J'en grattais partout et tout, je retrouvais tout le temps. Voilà. Putain, je suis vieux. Oh, je suis si vieux. Oh, j'ai mal au lombaire. Ah bah voilà, j'ai mal au lombaire. Non, c'est faux. De quoi charger 2 pages web? Non, mais en plus, à l'époque, traîner sur Internet, ça voulait dire passer des heures sur des forums PHP qui mettaient une plombe à charger à chaque fois que tu changeais de page. Regarder une vidéo rigolote, ça prenait 1 minute, 2 minutes de téléchargement. Non, c'était en vrai, c'était le bon temps, c'était marrant. C'était vraiment marrant. Bah, les forums PHP, j'ai adoré, hein. C'était une époque d'Internet, les forums PHP, c'était trop bien. Il fallait 20 minutes pour avoir ton MP3 compressé à 128K. Ouais, les téléchargements. Alors ça c'est un peu plus tard. Ça, c'est l'arrivée des forfaits Internet où on installait des logiciels de téléchargement en peer-to-peer. Et on téléchargeait des vidéos. Moi, je téléchargeais des clips de Linkin Park, ok? Tu vas faire quoi? Ça durait 2 jours, le téléchargement d'un clip. C'était trop bien. Puis on téléchargeait des MP3. Il y avait Kazaa, Emule, Napster, LimeWire. Alors, on téléchargeait aussi beaucoup de virus informatiques. On téléchargeait beaucoup de porno non volontaire. Parfois un peu volontaire, mais souvent non volontaire. Il y avait des petits rigolos qui mettaient en ligne des films. Et tu téléchargeais le film, ça prenait 2-3 jours. Et quand tu ouvrais le film, c'était pas du tout le film. En fait, c'était un porno russe, mal sous-titré en japonais. Et ça t'avait pris 3 jours pour ça, et c'est raté. Et t'es... Non. On gravait des CD. Ouais, on gravait des CD et après on les échangeait. Du coup, quand on allait au collège, on se ramenait avec des classeurs de CD. Et c'était que des CD gravés. Et on se les échangeait comme ça. Ah, tiens, tu me le files, je le grave chez moi, comme ça je te le rends demain et tout. Donc tu préfères quoi, Limp Bizkit ou Linkin Park? J'ai les deux. Ah ouais, non, c'était bien. Hein. Ah ouais, ouais, non, c'était des belles années. La pochette en tissu. Oui, la pochette en tissu. On est vieux. On est vieux. Et à l'époque, qu'est-ce que je vous dise? À l'époque, Jospin était Premier ministre. Voilà, Jacques Chirac était président de la République. Bah, c'était autre chose. C'était autre chose. C'était pas pareil. Et pourquoi on parle de toutes ces conneries? Ah, parce qu'on parlait du modem. Ah non, on est parti loin. Oh là non, on est parti loin. Non, on avait une discussion sérieuse. On parlait de la démocratie chrétienne française et de ses évolutions. Et on a échoué, on a échoué. On est parti dans des considérations terrifiantes, absolument terrifiantes. Alors, je vais passer aux toilettes et ensuite je vais vous lire deux articles que j'ai sélectionnés où on va parler de la réforme de la Constitution, dis donc. Vous la sentez, la réforme de la Constitution? Eh ben, elle arrive. Je reviens. De retour, mesdames et messieurs. Ça va toujours? Ouais, super. Alors, non, mais attendez, parce qu'en fait, il y a deux trucs. J'ai vu passer dans Le Monde une tribune co-signée par des parlementaires de gauche au sujet de la révision constitutionnelle. Et j'ai vu aussi un article d'analyse du Figaro sur les ambitions de réforme constitutionnelle de Bruno Retailleau. La droite, elle aussi, réfléchit aux modalités de réforme de la Constitution. Intéressant, on n'est même pas encore dans 2027, qu'on est déjà en train de discuter des sujets profonds. On va commencer avec Bruno Retailleau, ça m'intéresse. Je suis curieux un petit peu de comment il voit les choses. Hop. Tchoum, tchoum, tchoum. Cette révision constitutionnelle que Bruno Retailleau veut pour réformer la France. La France, mesdames et messieurs. Et pas n'importe laquelle. Celle de Bruno Retailleau. Décryptage. Bruno Retailleau travaille sur le projet avec une dizaine de spécialistes du droit constitutionnel. Objectif du président candidat, avoir réellement les moyens d'engager des réformes majeures sur le plan régalien en cas de victoire de la droite en 2027. Lors de son passage au Salon de l'agriculture à Paris, Bruno Retailleau a évoqué l'existence d'un projet de révision constitutionnelle transversale conduit au sein des Républicains. Une dizaine de spécialistes échangent régulièrement depuis plusieurs mois pour bâtir l'architecture de certaines évolutions. L'ambition de Bruno Retailleau est de réconcilier l'état de droit et la souveraineté populaire, explique Jean-François Dejean. Le directeur général des Républicains rappelle que pour le chef des LR, qui s'est porté candidat pour défendre les couleurs de la droite en 2027, le sujet est crucial. Il y réfléchit depuis une dizaine d'années et son expérience de ministre de l'Intérieur a consolidé ses intuitions d'élu et d'ex-ministre de l'Intérieur. À Beauvau, la question la plus récurrente était de savoir si on pouvait faire les choses, car tout était inconstitutionnel. On se demande toujours si un texte est capable de voler, c'est-à-dire de passer au-dessus du Conseil constitutionnel, grince un proche collaborateur. Alors, je veux pas être mauvaise tête. Je veux pas être mauvaise tête. Mais si tout ce que tu imagines est inconstitutionnel, c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle qu'elle soit inconstitutionnelle. Enfin, on peut en discuter, mais c'est un peu flippant. À chaque fois qu'on réfléchissait à un truc, bah, c'était pas possible à cause de la Constitution. Alors franchement, super. Bah ouais. Merde. Comme beaucoup d'acteurs politiques français, qu'ils soient locaux ou nationaux, le président des Républicains ne fait que partager les mêmes constats d'impuissance, souvent rappelés par l'actualité. Comme d'autres, il s'est retrouvé aux premières loges d'une défiance grandissante entre les Français et les élus, les premiers accusant les seconds d'inertie. Mais si le fossé semble se creuser inexorablement, si l'efficacité de l'État pose problème, il est indispensable de comprendre les raisons de ces obstacles trop nombreux. On va y revenir peut-être plus tard dans l'article, mais moi je suis curieux autour de cette idée que les Français attendent de l'action politique, or il est impossible d'agir, donc c'est une impuissance organisée. J'ai toujours été assez dubitatif là-dessus. J'entends cet argument depuis longtemps et je me suis toujours dit que, en fait, il y a peut-être des Français qui sont mécontents des décisions qui sont prises ou des absences de décisions. Mais je ne crois pas que les Français soient mécontents de l'impossibilité de prendre les décisions parce que je ne suis pas convaincu qu'elle existe vraiment, cette impossibilité. Ou alors, si elle existe, c'est pour de bonnes raisons. C'est pour cela, avant même de savoir comment les adhérents LR comptent se mettre en ordre de marche pour relever le défi de l'échéance 2027, Bruno Retailleau est convaincu d'une chose. Tout réformateur, porteur d'un projet de rupture, visant à rendre à la France de réelles capacités d'action, ne pourra pas s'affranchir d'une réécriture de la Constitution. Sans elle, toute promesse de changer les choses restera vaine, surtout dans le domaine régalien. Sécurité, immigration et justice sont cités en tête des urgences, mais en réalité, nombre de problématiques renvoient à l'incapacité d'agir des élus. Les débats sur l'agriculture ou l'industrie, souvent posés en termes de souveraineté et d'indépendance, l'ont encore démontré récemment. Je réfléchis, je suis de bonne volonté, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en termes d'agriculture et d'industrie ? Enfin, je veux dire, la politique agricole commune, c'est un souhait de la France, c'est un souhait de tous les pays européens de partager leur politique agricole. Et on ne peut pas dire que la France est négligée par la PAC. En termes d'industrie, la réindustrialisation vantée par Emmanuel Macron, elle est en marche. Donc, par contre, quand tu dis sécurité, immigration, justice, j'ai envie de dire ouais. Faut que tu m'expliques. À 15 mois de l'échéance présidentielle, les travaux pilotés par Retailleau avancent. On est dans la rédaction opérationnelle des textes. C'est très professionnel. On vise plus la qualité que le nombre. L'objectif est de porter sur l'essentiel et d'être prêt. confié un participant en évoquant la fin du mois d'avril comme horizon pour la copie finale, avant les derniers arbitrages de la présidence. Parmi les personnalités mobilisées, on trouve par exemple Guillaume Larrivé, vice-président LR, l'auteur de La Révolution inachevée, où il dénonce l'enlisement de l'État dans l'impuissance, se félicite de voir un candidat à la présidentielle s'impliquer aussi finement sur ces sujets. Le constitutionnaliste Jean-Éric Schoettl, qui participe également à la réflexion, avait analysé pour sa part la démocratie au péril des prétoires, en essayant de retracer une évolution de l'État de droit au gouvernement des juges. Bon, ben ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair. L'obstacle, c'est le droit. L'obstacle, c'est l'État de droit. L'obstacle, c'est ce qui nous empêche d'avancer. C'est les juges qui nous condamnent quand on avance. Mais encore une fois, je... changer les lois à ce moment-là, mais de là à changer la Constitution... Le sujet n'est donc pas nouveau, mais à l'approche de l'échéance suprême, les contributeurs de ce laboratoire LR veulent croire que le fruit sera bientôt mûr, non seulement pour faire émerger une vision constitutionnelle, mais pour lui trouver une majorité parlementaire à l'occasion d'un changement de politique largement attendu dans le pays. Attends. Les contributeurs de ce laboratoire, ils pensent qu'on va réussir à trouver une majorité parlementaire à l'occasion d'un changement politique largement attendu dans ce pays ? J'aimerais avoir leur confiance. Pour rappel, selon l'article 89 de la Constitution de 1958, le président de la République a deux options face à lui pour engager une telle révision constitutionnelle. Hop. Il peut la soumettre au référendum ou au Parlement réuni en congrès ou à une adoption, où une adoption ne serait possible qu'avec une réunion des 3/5 des suffrages exprimés. Mais au lendemain de cette présidentielle, je ne vois pas comment le président élu n'aurait pas de majorité, se rassure un cadre LR. Putain. Pareil, je trouve qu'il y a une assurance incroyable de dire « je ne vois pas comment le président élu n'aura pas de majorité » après les 2 ans qu'on vient de vivre, là. Moi, je trouve ça délulu de ouf. Enfin, il faut une sacrée confiance pour se dire non seulement Bruno Retailleau va être élu président de la République, mais en plus, il va avoir 300 députés, t'inquiète. C'est pas sûr, ça. Hein. C'est loin d'être sûr. Dans les équipes de Bruno Retailleau, beaucoup pensent que la réconciliation des Français est une clé pour 2027, à condition que le nouveau pouvoir ait réellement les moyens d'exercer les missions pour lesquelles il aura été élu. J'aimerais bien qu'on en sache plus quand même dans cet article, parce que là, ça, voilà, on parle d'avoir les coudées franches, avoir des moyens d'action, sortir de l'immobilisme. Tout ça, c'est des jolies phrases, mais concrètement, pour le chef de la droite LR, le réarmement régalien, comme l'efficacité de l'État, passe par une modification du cadre juridique. Il ne manque pas d'exemples concrets à sa disposition pour démontrer la pertinence de son objectif. Le premier d'entre eux concerne l'immigration. Sujet exclu du cadre prévu par l'article 11 de la Constitution. Je vous rappelle que l'article 11, c'est l'article sur les référendums pour voter des lois. Effectivement, l'article 11 n'autorise pas l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Revoir le texte fondateur sur ce point précis serait pourtant une manière de rendre la parole aux Français. C'est une question majeure sur laquelle on ne leur a jamais demandé leur avis. Et pendant ce temps-là, le RN progresse, note un parlementaire LR, alors que d'autres exemples d'impossibilité constitutionnelle existent. Putain, mais c'est trop vague comme article. C'est trop vague. Là, on a l'exemple de l'immigration, qui est effectivement un sujet favori de la droite et de l'extrême droite qui veulent en faire un référendum, ça on le savait déjà. Mais d'autres exemples d'impossibilité constitutionnelle existent. Lesquels ? Lorsque l'ex-ministre Retailleau avait voulu modifier la loi pour allonger la durée de rétention des étrangers dangereux et faciliter leur expulsion, il avait obtenu un large accord parlementaire, à l'exception de la gauche et de LFI, mais le Conseil constitutionnel s'y était opposé. Motif, un problème de proportionnalité entre les droits des étrangers et la sécurité nationale. On pourrait aussi rappeler cet autre refus de 2024 concernant la conditionnalité des aides sociales accordées aux étrangers à partir d'une durée de séjour ou encore la censure de la loi Attal qui souhaitait renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Effectivement, ce sont des exemples de lois qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel parce que ces lois ne respectaient pas la Constitution. bien souvent, on en a déjà parlé beaucoup sur cette chaîne, bien souvent, ces lois-là, il était anticipé qu'elles ne respectent pas la Constitution. C'est-à-dire qu'en gros, les parlementaires, en votant la loi, savaient très bien qu'ils votaient un truc contraire à la Constitution. Même Laurent Fabius s'en était ému de cette stratégie parlementaire. Pour l'un des artisans de la révision Retailleau, les conséquences de ces obstacles à répétition sont colossales et constituent le terreau d'une méfiance croissante dans le pays à l'égard du personnel politique. Les gens se demandent si nos élus ont encore le pouvoir. Au fond, ils se demandent qui décide vraiment entre le président de la République, les parlementaires et les instances européennes que sont la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. Cela rappelle la vétocratie définie par le politologue américain Francis Fukuyama, décrivant des causes du déclin politique de l'Occident marquées par l'inflation des contraintes imposées aux décideurs. Non mais en gros, ouais, c'est une théorie du pouvoir dans laquelle ils veulent avoir les coudées franches. Je veux pouvoir décider ce dont j'ai envie de décider sans qu'il y ait un juge ou un conseil constitutionnel qui m'en empêche. Merci à Blaze. Voilà, pas de garde-fou, pas de frein. Chez les maîtres d'œuvre de la révision LR, on explique la persistance de ces freins systématiques en soupçonnant une crainte de la souveraineté populaire. Comme si, dans l'habituel conflit entre intérêt général et liberté publique, les libertés publiques gagnaient toujours. Il faudra retrouver un équilibre, explique un élu, lassé par les critiques sur l'infirmité des politiques face aux difficultés croissantes du pays. Pointant les retards et les angles morts d'une décennie macroniste dans le prolongement d'un précédent déni hollandiste, il dénonce 15 années de perdu. Puis fait observer, n'avez-vous pas remarqué que lorsque Bruno Retailleau, le 12 février, a annoncé sa candidature à la présidentielle, Emmanuel Macron a réagi aussitôt sur l'état de droit le 15 février en le pressant de ne pas mettre en l'air la Constitution. Bah, il a peut-être raison, Macron, sur ce coup-là, je pense. Pour cet observateur, il n'y a pas d'illustration plus limpide du débat à venir. Il promet que le chef des LR n'a aucune intention de casser l'état de droit en France, mais il prévient qu'il n'hésitera pas à s'attaquer aux causes profondes de la paralysie du pouvoir. Bruno Retailleau sait que les Français, lucides sur les impasses, peuvent être interrogés sur l'immigration ou la justice. Veulent être interrogés. Il regrette que son pays en soit trop souvent réduit à des marches blanches et à des bougies, comme si chacun devait se résigner à l'indignation sans avoir le pouvoir de changer les choses. Il faudra tout faire, y compris une révision constitutionnelle, pour en finir avec le cercle vicieux de l'impuissance. C'est un article très bavard pour finalement ne pas révéler grand-chose du contenu des travaux. Moi, je suis curieux. Alors, j'ai bien compris qu'il fallait attendre fin avril, c'est ça ? Fin avril pour avoir la substantifique moelle de ce groupe d'experts qui travaille pour les Républicains à une révision constitutionnelle. Mais moi, de ce que je pressens de cet article, c'est que sous couvert de la volonté de Bruno Retailleau de retrouver des marges de manœuvre pour agir concrètement politiquement, il va y avoir un effacement des garde-fous juridiques et constitutionnels, la Cour européenne des droits de l'homme, l'Union européenne, la justice, je sais pas moi, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens pendant qu'on y est. J'en sais rien. Mais clairement, la révision constitutionnelle qui aurait pour seul but de laisser des coudées franches à un président de la République et à sa majorité, c'est pas une bonne idée. Vraiment pas. Et par ailleurs, quand il parle des 15 années d'impuissance, c'est aussi des années d'impuissance parce que les parlementaires n'étaient pas d'accord. Merci Cléiane. Ce qui empêche d'avancer politiquement, c'est souvent l'incapacité de trouver une majorité absolue à l'Assemblée. Donc j'aimerais bien savoir ce que Bruno Retailleau va faire quand il aura une minorité de députés. Si d'aventure il est élu président de la République. C'est quand même dingue que l'Assemblée nationale soit pas foutue d'adopter une loi et que quand elle y arrive, c'est systématiquement des trucs anticonstitutionnels. C'est quand même pas très satisfaisant non plus dans l'absolu. Disons que moi, je choisis de critiquer la loi plutôt que la Constitution. Eux, visiblement, choisissent de critiquer la Constitution plutôt que la loi. C'est un choix. Mmh. Est-ce qu'ils voudront la même chose sur si Mélenchon est élu? Ouais, c'est une bonne question. Non, mais t'as raison. Quand tu te places dans la perspective de l'opposition et de la minorité, tu vois plus les choses de la même manière. Les Républicains, ils étaient bien contents d'avoir le Conseil constitutionnel quand c'était les socialistes qui étaient au pouvoir. Oui, évidemment. C'est vraiment contraignant, la Constitution, ouais. La responsabilité collective pour la loi Attal, je sais pas ce que c'est. Attends, j'ai bloqué mon... Voilà. Oula. Un peu trop. Toujours un peu trop. Voilà, comme ça. Est-ce que le président est un magistrat? Certainement pas. Le président est indépendant du pouvoir judiciaire et le pouvoir judiciaire est indépendant du président. Le président n'est pas un magistrat, le président ne rend aucun jugement. Certainement pas. Wauquiez avait dit qu'il fallait un vote de l'Assemblée devait prévaloir sur un avis du Conseil constitutionnel. Oui, je me souviens de cette déclaration de Wauquiez. Oui, mais c'est une rengaine assez ancienne. Ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Qui sont ces juges pour s'opposer à la volonté du peuple? Voilà. Souveraineté populaire contre protection des libertés. Et ça a été un débat en 1958, au moment où on a créé le Conseil constitutionnel. C'était quand même la première fois dans l'histoire de France qu'on créait une instance chargée de retoquer le travail du Parlement. Mais qui sont ces gens pour retoquer le travail du Parlement? C'était quelque chose de pas évident, quoi. Donc ouais. Je pense à la taxe de 75% de Hollande sur les grosses fortunes qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Je suis sûr qu'on avait aussi eu des discours du même genre à gauche à ce moment-là. Je m'en souviens pas, mais c'est possible, oui. Oui, c'est possible. Mais c'est normal. Quand t'es une majorité parlementaire et que tu te fais censurer ta loi par le Conseil constitutionnel, tu montes sur tes grands chevaux et tu dis quoi? Comment? Mais qui sont-ils ces sages de la rue de Montpensier pour m'empêcher d'appliquer le programme sur lequel le peuple m'a élu? Voilà. Est-ce que c'est pas ça le fascisme? C'est une des caractéristiques du fascisme, enfin c'est pas les seules. Du coup, s'il n'est pas magistrat, la grâce présidentielle n'est pas juridique. Non, elle est présidentielle. Ce serait plus pratique de ne pas avoir de constitution comme ça, il n'y a pas besoin de la trahir. Ouais, non mais voilà. C'est que... C'est quand même l'autoroute du n'importe quoi. Et je trouve ça flippant. D'autant que je pressens que la prochaine élection présidentielle, celle de 2027, va en partie se jouer sur des questions institutionnelles. On verra. Abonnez-vous à ma chaîne Twitch, puisque de toute façon, on va passer des semaines et des mois ensemble à analyser tout ça. Mais je pressens que une partie du sujet va être sur les questions institutionnelles. Les questions institutionnelles ont toujours fait partie des élections présidentielles, mais pas toujours au premier plan. C'est toujours plutôt pouvoir d'achat, sécurité, écologie, affaires internationales, etc. Là, il y a un côté 5e République à bout de souffle où plusieurs camps vont essayer d'en changer. La gauche a toujours porté l'idée de 6e République. Elle n'a jamais eu les moyens de la mettre en œuvre, mais elle va revenir évidemment sur le tapis avec ce dossier-là. Du côté du centre, Emmanuel Macron avait promis une réforme de la Constitution en 2016-2017. Il avait essayé de l'introduire en 2018, il n'avait pas réussi. Et la droite, elle est historiquement pas trop chaude pour réformer la Constitution, sauf sur des réformes un peu techniques, comme celle de 2008 avec Nicolas Sarkozy. Quant au Rassemblement National, je sais pas. Je ne sais plus si ça faisait partie du programme de Marine Le Pen de changer la Constitution. Pourtant, Hollande, il avait le Sénat et la haine. Il a eu le Sénat et la haine que pendant 2 ans, et ensuite, il n'avait pas les 3/5 du Congrès. Ça suffit pas d'avoir le Sénat et la haine. Les seuls qui veulent pas toucher à la Constitution pour faire passer leur texte, c'est LFI finalement. Hein? Pourquoi? Comment? Pourquoi y aurait que? Il faut apporter certaines modifications dues à notre temps et les évolutions. Oui, peut-être, mais je serai quand même attentif aux détails des modifications qu'on veut apporter à la Constitution. C'est-à-dire, l'argument de la modernité n'est pas un argument suffisant à lui tout seul. C'est ça que je veux dire. Et si chaque commune devenait un pays indépendant? Voilà, ça par exemple, c'est pas une très bonne idée. Est-ce qu'il voulait changer la constitution Hollande dans l'absolu? Oui, ça faisait partie de son programme en 2012 de faire le point sur la réforme de 2008 qui était encore assez récente pour savoir s'il y avait besoin de faire une évolution nouvelle de la Constitution. Et les travaux ont jamais conclu à la nécessité de changer la Constitution compte tenu de l'impossibilité de le faire politiquement. En gros, l'UMP était tellement vent debout contre toute idée de réforme constitutionnelle que... Elle est peut-être là, l'impuissance politique. C'est impossible de changer la Constitution sans avoir les 3/5 du Congrès. Tu peux changer la Constitution avec l'article 11, jurisprudence de Gaulle. Alors, ce n'est pas une jurisprudence, puisque depuis que de Gaulle a fait ça, ça a été rendu impossible. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible de changer la Constitution avec l'article 11. Oui, car ça arrange trop de rester dans cette constitution. Ça dépend des circonstances politiques. Disons que la constitution de la Ve République, elle te permet d'avoir les coudées franches dès lors que tu as l'Élysée plus une majorité absolue à l'Assemblée. Mais l'enjeu, c'est d'avoir une majorité absolue. Ce que le PS a perdu au cours du quinquennat de François Hollande. On l'a bien vu. C'était déjà impossible sous De Gaulle, il l'a quand même fait. Mais c'est un problème. Enfin, justement, c'est que depuis que De Gaulle l'a fait et qu'on s'est posé la question de savoir comment c'est possible de le faire, comment il a pu le faire, que le Conseil constitutionnel a fait évoluer sa jurisprudence et que maintenant c'est impossible. Ils ont nerf de Gaulle, ouais. Heureusement. Est-ce que tu peux changer la loi qui définit les modalités de changement de la Constitution ou ces modalités sont elles-mêmes constitutionnelles? Elles sont constitutionnelles. C'est ça le trick. C'est que pour changer le changement de la Constitution, il faut changer la Constitution. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais vous rappeler que demain, on fait une émission Backseat exceptionnelle sur ma chaîne à partir de 18h. Ça va être une émission très dense et très complète et ça va être trop cool. On va commencer Backseat avec un before qui dure 1 heure avec les états généraux de la protection sociale. Les états généraux de la protection sociale, on va vous les présenter demain évidemment, mais c'est un collectif d'organisations, de syndicats, d'associations et d'ONG qui se mobilisent pour porter la question de la réforme de notre système de protection sociale dans le cadre de l'élection présidentielle de 2027. Ils ont fait tout un travail de collecte d'idées et de propositions dont ils vont rendre les résultats. Donc ça va être trop cool. Ensuite, on aura la première partie de l'émission Backseat avec un invité qui va venir nous présenter un collectif qui s'appelle Démocratisons la politique. Et vous allez voir que ça reprend beaucoup des sujets qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder sur cette chaîne, puisque notamment il est question de la parité sociale sur les listes électorales, pas les listes électorales, les listes de candidature aux élections municipales et aux autres élections, la question du profil sociologique de nos élus, comment est-ce qu'on rend plus représentatif notre personnel politique. Et dans la deuxième partie de l'émission, on sera en partenariat avec Mediapart, mesdames et messieurs, pour la première fois de l'histoire de Baxit, partenariat avec Mediapart autour de la question de la mobilisation des organisations syndicales contre l'extrême droite, puisque la CGT et la CFDT sont unies dans la lutte contre l'extrême droite. Il y a une unité syndicale assez intéressante qui est en train de se créer autour de l'enjeu de la lutte contre l'extrême droite. On aura sur le plateau, et en exclusivité, Sophie Binet et Marie-Lise Léon, les deux chefs des deux principales confédérations syndicales, qui seront sur notre plateau pour répondre à nos questions. Voilà. Si vous habitez à Paris, il y a des Parisiens dans le chat ? Les Parisiens, vous êtes là ? Les Parisiens, venez sur le plateau de Baxit. Venez, venez dans le public, n'hésitez pas à viendre. Point d'exclamation place dans le chat. Attends, je vais le faire, hop. Point d'exclamation place, tu cliques sur le lien. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Tu cliques sur le lien, tu arrives sur cette page. Et tu prends ta place, voilà, tu prends ta place dans le public de Baxit. Venez, il y aura des nems et des bières, il y a un buffet offert après l'émission. Ça va être une super émission. Donc venez. Venez, ça va être chouette. Ramenez-vous, prenez votre place et ramenez vos potes, invitez vos dates et venez dans le public de Baxit. J'ai hâte de vous rencontrer et on aura l'occasion de discuter et tout machin. C'est payant. Oui, c'est payant, ça participe au financement de l'émission Baxit. Vous avez deux tarifs, vous avez le tarif plein et vous avez un tarif réduit pour les personnes qui relèvent du tarif réduit, notamment les étudiants, les personnes précaires, les allocataires des minima sociaux, etc. Venez. Je ne suis pas dispo demain, bébé. Oh ! Bon, bah, tu as le droit de regarder le stream, du coup. C'est quelle date avec Mediapart ? C'est demain. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est demain. Mes dates au pluriel. Ouais, revenez, venez avec vos dates au pluriel. Hop. Est-ce que c'est payant le stream ? Oh, disons que c'est fortement incité de passer à la caisse pour filer un petit abonnement. Ça soutient le streamer. Il en a besoin. Interdit de venir sans son crush Tinder. Ou alors tu peux venir et trouver ton crush sur place. Mais je veux pas le savoir. Je veux pas être informé, ça me regarde pas. Si je viens avec mes mouflets de 6 et 2 ans, ils risquent de casser l'ambiance. Non, j'ai trop envie de les rencontrer, moi. Vas-y, viens avec. Par contre, j'ai peur que ça dure un peu longtemps pour eux. C'est un peu dur. Une émission politique comme ça... Est-ce que les subs sont retirés du prix de la place ? Non. Par contre, si vous êtes membre du club Baxit, alors la place est gratuite. N'oubliez pas. Tu peux venir seul et repartir avec le crush de quelqu'un d'autre. Exactement. Tu peux chourer le crush de quelqu'un d'autre. Il y a le quiz à la con, c'est pour les enfants. Oui, le quiz à la con, c'est pour les enfants. C'est pour les grands-enfants que nous sommes. Avec des crushs et des dragibus, on va occuper les mouflets. Je suis membre du club, mais j'habite trop loin. Bon, bref, venez dans le public, les copains, venez. Tous, 100% des gens qui sont venus dans le public de Baxit ont été vachement contents d'être dans le public de Baxit. C'est une stat que je tiens de toutes les discussions que j'ai eues avec tous les gens du public pendant 5 ans d'émission Baxit. Donc, c'est assez fiable, quand même. Allez, on reprend notre sujet sur la révision constitutionnelle, mesdames et messieurs, puisque j'ai ici devant moi une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde. Tribune sur la révision constitutionnelle. L'heure n'est ni aux postures de Cassandre, ni à la résignation, mais à la responsabilité démocratique. Dans une tribune au Monde, un collectif de parlementaires estime que partout où les forces illibérales ont prospéré, elles ont exploité les zones de fragilité procédurale. Pour permettre la mise en place d'un solide rempart institutionnel, ces députés déposent une proposition de loi visant à clarifier explicitement la procédure de révision de la Constitution. Ah ! Donc en gros, il y a des parlementaires qui ont lu l'article sur Bruno Retailleau qu'on vient de lire et qui ont répondu « hop, 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 ça va pas se passer comme ça ». Donc ils veulent réformer la Constitution pour que la Constitution soit plus difficile à modifier. C'est ce que je comprends. On va voir ce qu'ils disent. Le 9 janvier, lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le procureur général Rémy Heitz et le premier président Christophe Soulard ont alerté sur les vents mauvais qui soufflent sur l'état de droit. Cette prise de parole s'inscrit dans un contexte particulier. L'année 2026 est la dernière année pleine avant l'élection présidentielle et à moins de 18 mois du scrutin. La vie politique s'organise déjà autour de l'échéance à venir dans une apathie mêlée d'une inquiétude profonde sur l'avenir de notre pays et de notre destin collectif. 18 mois, c'est selon le rapport 2022, intitulé « La résistance du système juridique français à un potentiel choc autoritaire » et rédigé par les spécialistes du droit public, le temps qu'il faut à un pouvoir autoritaire pour démanteler l'état de droit et les principes qui structurent notre vie commune et république, en république. 18 mois, c'est le temps qu'il faut pour mettre à genoux la démocratie française. Les expériences étrangères doivent nous alerter. La Hongrie, la Pologne, la Turquie ou encore les États-Unis ont montré à quelle vitesse les gouvernements élus peuvent exploiter les failles de leur système constitutionnel pour marginaliser les oppositions politiques, juridiques, médiatiques ou associatives. Dès le premier mois de son mandat, Donald Trump a signé de nombreux décrets anti-droit, remettant en cause le droit du sol, les accords de Paris et certains droits civils. L'état de droit y est progressivement vidé de sa substance, non par un coup de force, mais par une succession de décisions juridiques, administratives et politiques, parfois illégales, mais prises au nom de la souveraineté populaire. Et c'est ça pour moi le trick magique du gouvernement MAGA, c'est la capacité de Donald Trump à faire passer les atteintes à la démocratie américaine comme des solutions issues de la souveraineté populaire, de la volonté du peuple, le peuple contre le droit, le peuple contre les juges. Bref, c'est exactement ce qu'on disait avant. Il serait illusoire de croire que la France évolue à l'écart de ces dynamiques. Le projet du Rassemblement national pour transformer la France en démocratie illibérale, xénophobe et autoritaire est connu. Selon Pierre-Yves Bocquet, ancien conseiller à la présidence de la République, ce projet pourrait permettre une révolution nationale en 100 jours, notamment par une proposition de loi déposée en janvier 2024, visant à modifier en profondeur la Constitution. Il suffit d'écouter les mots de Pierre Gentillet, ancien avocat et candidat de l'Alliance RN Ciotti pour les élections législatives de 2024. Je cite « À condition de mettre au pas le Conseil constitutionnel, nous pourrons tout faire. » Tout est dit. Effectivement, tout est dit. Ce projet s'appuie sur une ambiguïté persistante. Nos précédents historiques, notamment les réformes constitutionnelles de 1962 et 1969, au temps du général de Gaulle, ont laissé subsister l'idée que de telles initiatives peuvent être engagées sans passer par la procédure prévue à l'article 89 de la Constitution, au profit d'un recours extensif de l'article 11. Ces deux articles répondent pourtant à des logiques fondamentales distinctes. L'article 11 permet de consulter le peuple sur des textes législatifs, tandis que l'article 89, lui, encadre strictement la révision de la Constitution en associant le Parlement afin que le projet soit discuté et amendé avant toute décision. Contourner cette voie revient à l'inverse à permettre au chef de l'État de fixer seul les termes du débat constituant, substituant ainsi le plébiscite à la délibération. Cette perspective est d'autant plus préoccupante que le contrôle du Conseil constitutionnel sur les actes préparatoires au référendum demeure très limite. très limité. Cela, les forces illibérales l'ont compris. Partout où elles l'ont proposé, elles ont exploité les zones de fragilité procédurale, là où l'interprétation peut supplanter la règle. Alors, je vais vous rappeler un truc important. Dans la Constitution, il y a deux articles qui prévoient la possibilité d'un référendum. Mais pas du tout pour la même chose. Le premier, c'est l'article 11. L'article 11 permet au président de la République de déclencher un référendum pour faire adopter une loi. Et seulement une loi. Mais toute une loi. L'article 89, lui, permet aussi un référendum, mais lui, c'est pour changer la Constitution. Et donc, il est beaucoup plus contraignant. Parce que le principe d'une réforme constitutionnelle, c'est que ça ne doit pas être facile à faire. Il ne faut pas qu'on puisse réformer la Constitution en un claquement de doigts. Voilà. Donc, le référendum pour changer la Constitution n'est possible que dans le cadre de l'article 89, et c'est un cadre contraignant qui prévoit notamment l'adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc ça doit faire un peu consensus quand même, le projet de loi. C'est ce qui s'était passé en 2008, par exemple. Même si ce n'était pas un référendum, c'était un congrès. De Gaulle, en 62, il s'est dit, c'est quoi ? Je fais ce que je veux, nique sa mère. Je fais un référendum pour changer la Constitution, mais j'utilise pour ça l'article 11. Donc je ne passe pas par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ça a été ça, le coup de force du général de Gaulle. C'était un viol de la Constitution, clairement. Mais il a fait son référendum de cette manière-là. Après ce référendum, article 11 de Gaulle, le Conseil constitutionnel a créé un contrôle pour empêcher que ça arrive à nouveau. C'est ce qu'on appelle le contrôle des actes préparatoires. Ça veut dire que pour faire un référendum, le président de la République doit prendre un certain nombre de décrets, notamment décret de convocation des électeurs, par exemple, avec des dates d'élection, avec des dates de référendum et tout. Le Conseil constitutionnel s'estime compétent pour juger de la constitutionnalité de ces actes préparatoires. Dès lors, un président de la République qui voudrait faire comme de Gaulle et organiser un référendum article 11 pour changer la Constitution serait obligé de passer par le Conseil constitutionnel qui casserait la décision en disant non, ce n'est pas constitutionnel. Merci Tidrao. Voilà pourquoi on dit que il n'est plus possible de faire ce qu'a fait de Gaulle. Sauf que ce que disent les rédacteurs de cette tribune, c'est que, je cite, le contrôle du Conseil constitutionnel sur les actes préparatoires au référendum demeure très limité. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Il doit y avoir des très bonnes raisons. Disons que le coup de force politique que pourrait faire un président de la République légitimé par le suffrage universel pourrait être de nature à briser le contrôle du Conseil constitutionnel sur les actes préparatoires. J'ai du mal à y croire. Je vous avoue que j'ai du mal à y croire. Qui a modifié la Constitution pour autoriser le Conseil à avoir ses droits ? C'est le Conseil lui-même qui s'est donné par jurisprudence ce pouvoir-là. Chose que le Conseil constitutionnel a fait à plusieurs reprises dans son histoire de se donner un peu plus de pouvoir. Je continue. Mais l'heure n'est ni aux postures de Cassandre, ni à la résignation. Elle est à la responsabilité démocratique, à l'écoute de celles et ceux qui alertent depuis des mois, magistrats, journalistes, universitaires, artistes, associations, sur la fragilisation progressive de nos contre-pouvoirs. 18 mois, c'est aussi le temps que nous avons pour agir, pour légiférer. Oui, parce que la présidentielle est dans 18 mois, et dans 15 mois. Des propositions existent pour ériger un véritable rempart institutionnel en protection de la justice, de l'indépendance des magistrats, des autorités administratives indépendantes. C'est dans cet esprit que nous déposons une proposition de loi visant à clarifier explicitement la procédure de révision de la Constitution, à affirmer l'exclusivité de l'article 89 et à renforcer le contrôle préalable du Conseil constitutionnel pour en empêcher tout contournement. Cette clarification n'interdirait en rien un débat démocratique sur nos institutions, ni la possibilité de convoquer une assemblée constituante. Loin d'écarter le peuple du processus constituant ou de restreindre les voies de la démocratie directe, cette démarche vise au contraire à en garantir l'exercice plein et entier. Elle consiste à s'assurer que le peuple se prononce sur un texte constitutionnel réellement débattu et amendé par le Parlement et non sur un projet imposé par l'exécutif. C'est cette exigence qui conditionne la protection durable des libertés publiques et de l'état de droit. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais sur l'importance du mécanisme de l'article 89. C'est ce mécanisme qui garantit qu'un texte qui est soumis au référendum, un texte constitutionnel qui est soumis au référendum, n'est pas le fruit d'un président seul dans son, dans sa chambre, dans son bureau de président. C'est le fruit d'une délibération et d'un exercice d'amendement et de compromis, parfois, qui est fait entre l'Assemblée nationale et le Sénat. De même, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat en 2016, doit désormais être soumise au Parlement réuni en Congrès. Elle constitue un autre levier essentiel pour renforcer l'indépendance de la justice face au pouvoir politique. 18 mois d'une échéance décisive, à 18 mois d'une échéance décisive, aucun démocrate sincère ne peut plus se contenter de redonner, de dénoncer les atteintes à l'état de droit. Il doit se saisir du temps qu'il nous reste pour en renforcer activement les protections, afin que ces efforts ne soient pas rendus vains. La France dispose encore de ce temps, de ses institutions et de son Parlement. Plutôt que d'en faire la scène de l'impuissance, il est temps d'en faire usage. Et donc voilà, ça a été co-signé par un collectif de députés écolos. Je regarde, mais il n'y a que des écolos là-dedans. Pour Yamir Chahi, Léa Balaj, El Mariki, Cyrielle Châtelain, évidemment, Paul Christophe, Hendrik Davy, Elsa Faucillon, Damien Girard, Fatia Kelouahashi, Benjamin Lucas, Marie Pochon, Daniel Simonet, Dominique Voynet. Donc c'est les Écolos and Friends. C'est les Écolos and Friends qui ont signé cette tribune. C'est intéressant, je trouve que c'est intéressant de faire l'exercice de lire à la fois la tribune, enfin cette tribune au regard de l'article qu'on a lu sur Bruno Retailleau. La volonté de la droite et de l'extrême droite de tordre nos institutions pour faire sauter les verrous, en gros faire sauter l'état de droit et faire sauter la démocratie libérale pour appliquer leur programme autoritaire. Et donc, à l'inverse, ces députés de gauche qui proposent de renforcer les verrous qui permettent d'éviter que ça n'arrive. C'est bien que les écolos suivent les traces de LFI 9 ans après. Ouais, excepté le fait que les écolos, ça fait depuis les années 90 qu'ils proposent ça. Mais, Dieu, je trouve pas la tribune sur Le Monde, elle vient de sortir. Non, elle vient de pas de sortir, elle a 2-3 jours. Si le RN a la présidence de la République, de l'Assemblée et du Sénat, il peut tordre le Conseil constitutionnel. Non, mais ils peuvent changer la Constitution. Mais le RN n'aura pas la majorité au Sénat, hein. Le RN n'a pas la majorité au Sénat. Est-ce que les macronistes pourront-ils soutenir une telle tribune ? Certains peut-être, ouais. Certains peut-être. Après, les macronistes, ils sont déçus de ne pas avoir pu faire leur propre réforme de la Constitution à cause de l'affaire Benalla en 2018, et depuis, ils n'ont pas réessayé, quoi. Une tribune d'il y a 3 jours parle d'un truc des écolos des années 90, permets-moi d'en douter. Non mais t'as raison, c'est la France insoumise qui a tout inventé. Mais l'idée même de 6ème République, c'est eux. La critique de la constitution de la 5ème, c'est eux. C'est une nouveauté dans le paysage politique depuis 9 ans. Merci Chapeau de Paille. Est-ce que le président du Sénat est réélu à chaque sénatorial? Je crois, ouais. Je crois qu'à chaque nouvelle législature, ouais. C'est quoi cette histoire de réforme consti de 2018? Bah, c'est une réforme de la Constitution qui a été commencée par Emmanuel Macron, par les macronistes à ce moment-là. Ce qui était au centre de leur réforme, c'était la réduction du nombre de parlementaires. C'était leur grand truc. Moins de députés, moins de sénateurs. Je ne sais plus quelles étaient les autres propositions qu'ils avaient. Le truc, c'est qu'en fait, le travail de réflexion sur les évolutions institutionnelles, a commencé à la commission des lois à l'Assemblée nationale, mais il y a immédiatement eu le déclenchement de l'affaire Benalla, qui a foutu un boxon monstrueux au sein de la commission des lois et qui a rendu impossible la poursuite de l'examen serein de la réforme constitutionnelle. Donc en fait, elle a été enterrée. Je comprends pas l'idée de réduire le nombre de parlementaires, ça me semble absurde de soutenir qu'il faut représenter moins finement le peuple. Alors, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai toujours fait partie des gens assez dubitatifs sur tous ces arguments de il faut réduire le nombre de députés. Pourquoi? Au nom de quoi? Avec des arguments que j'ai toujours trouvé un peu vaseux en disant que moins de députés, c'est plus d'efficacité. Comment ça? Enfin, je sais pas, avec une espèce de vision un peu très DRH, tu sais. Ouais, non, mais du coup, les discussions seront plus courtes. Ah bah, parce qu'il faut que ce soit court, une discussion. Discussion sur un projet de loi, ça me paraît... Ouais, non, je sais pas. Comment on dose le nombre de représentants corrects? Bah, ce qu'avait... Alors, je me souviens qu'ils avaient trouvé des discussions. Ils avaient dit il faut qu'il y ait au moins un député par département, avec plus de députés dans les départements les plus peuplés. Genre Paris, Marseille et Lyon, tu vois, typiquement. Des plus grandes circonscriptions, je sais plus. Je crois qu'ils voulaient mettre une dose de proportionnelle aussi à l'époque. À l'époque, dans la proposition de Macron, il y avait une dose de proportionnelle sur la composition de l'Assemblée. Une dose de tirage au sort. Non, c'était pas dans le projet. Donc, bon, enfin, voilà. Moi, j'ai toujours été assez dubitatif, hein, sur ces histoires de réduction du nombre, comme si c'était un objectif en soi, comme si moins il y avait de parlementaires, mieux c'était. Bon. Je suis vraiment pas convaincu. Vraiment pas convaincu. L'avantage de notre scrutin, c'est qu'il est stable. En Allemagne, c'était inflationniste, donc ils ont mis un plafond à 630 pour le Bundestag. Ouais, les Allemands, ils avaient un système différent, ça dépendait de la croissance de la population. En gros, ils gagnaient des députés au fur et à mesure. Nous, c'est pas compliqué, il y a écrit dans la Constitution que la limite, c'est 577. Ok. Voilà, on peut pas aller plus loin que ça. Donc c'est flippant tout ça, je trouve. C'est flippant cette tentation de la droite et de l'extrême droite de tordre, de contourner ou simplement de réformer la Constitution pour limiter les droits et libertés. Tout ce discours sur l'impuissance publique, c'est un discours que je nous invite à garder en tête parce qu'à mon avis, on va beaucoup l'entendre pendant la campagne. Du coup, pour la droite, on n'est pas sûr de la tentation si De Gaulle l'a déjà fait. Ouais, mais justement, ils ont envie d'y regoûter, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont envie d'y regoûter. Je suis très dubitatif sur la capacité d'un président de la République à utiliser l'article 11 pour réformer la Constitution. Je suis très, très dubitatif. Parce que c'est anticonstitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel censurera. J'ai du mal à imaginer un front ouvert entre la présidence de la République et le Conseil constitutionnel. Bien souvent, on compare le nombre d'élus entre la France et les pays voisins en disant qu'il y a moins d'élus chez les autres tout en étant aussi efficace. Ouais, non mais c'est cette idée que la démocratie doit être efficace, avec une efficacité, avec une vision très, pardon, mais très entrepreneuriale de l'efficacité. Qu'est-ce qu'on compte? On compte quoi? Le nombre de lois, le nombre de décrets? On regarde la croissance, on regarde le taux de chômage, on regarde. C'est quoi l'indicateur de la du fonctionnement d'une démocratie? Je sais pas, je. Le nombre de subs. Le nombre de subs, à commencer par le tien. Il y aura sûrement une sixième république, quelle qu'elle soit, un jour. Ouais. Il y aura sûrement une septième république après aussi. Le mot efficace n'est pas pertinent concernant l'action publique. En tout cas, disons qu'il mérite d'être précisé. Disons qu'il mérite d'être précisé. Il faut savoir de quelle efficacité on parle, selon quels critères, pourquoi, etc. Je sais pas, je me méfie toujours un petit peu des discours comme ça sur l'efficacité publique. Ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, il y a peut-être des trucs à prendre, hein. Je veux pas fermer la porte, mais. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Je vais me reposer. Je vous donne rendez-vous demain, demain à partir de 18h pour une émission Backseat exceptionnelle. Beaucoup de choses à dire dans cette émission, des gens incroyables. Il y aura des chroniqueurs incroyables. Il y aura Usul, il y aura Safia, il y aura Loumir. Ça va être trop cool. C'est la dernière émission Backseat avant le premier tour des municipales. Et je vous rappelle que le premier tour des municipales, rendez-vous sur ma chaîne à partir de 17h ce dimanche pour suivre ensemble les résultats de l'élection municipale. Ça va être chouette. Voilà. C'est une semaine chargée cette semaine en stream. Et c'est cool. Ça fait plaisir. Merci les copains d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Et je vous retrouve demain, 18h, sur ma chaîne pour l'émission Backseat. Merci d'être là les copains. À demain pour ceux qui seront sur place. Ciao, ciao.